Nancy Houston, vous êtes canadienne, vous êtes née en 1953 dans les plaines de l'Alberta. Adolescence américaine ensuite, vos premiers pas à l'université, vous les faites à New York. Parisienne d'adoption depuis 1973, vous vivez également dans le Berry, une région du centre de la France. Drôle de parcours, pourrions-nous dire. Vous avez d'abord écrit dans une langue qui vous était étrangère, le français, avant de retrouver votre langue maternelle quelques années plus tard, l'anglais, lors de la rédaction du Cantique des Plaines. Aujourd'hui, vous passez de l'une à l'autre langue, indifféremment, et cela fait de vous une romancière écartelée entre deux mondes. Écartelée n'est peut-être pas le bon mot. Vous êtes en tout cas de ceux qui apprécient le jeu des identités multiples. Dans Nord perdu, un essai paru aux éditions Actes Sud, vous posiez cette question si complexe. Il est où le vrai soi? Si l'on arrache le masque, à quoi ressemble le visage qu'il révèle? Jeu de miroir, qui se cache derrière la plume? Qui est la vraie Nancy Houston? Dites-nous tout.
Pour vous dire la vérité, c'est une chose en laquelle je ne crois pas. Le fameux adage au-dessus du temple de Delphes en Grèce, comme chacun sait, disait ou dit encore, nous disait, connais-toi toi-même. Moi, je ne pense pas qu'il soit intéressant ni même possible de se connaître soi-même. Je pense que le soi est une chose que l'on construit au fur et à mesure de la vie. Il y a une donnée de départ, évidemment, qui est chromosomique, qui est mystérieuse d'ailleurs, parce que ce n'est pas que chromosomique, même deux jumeaux identiques auront des caractères un peu différents. Néanmoins, à partir de cette donnée, on est le produit de des gens qu'on rencontre, du pays où l'on habite, de la religion qu'on nous inculque, des convictions patriotiques ou nationalistes qu'on nous inflige. Et devenir soi-même, au fond, c'est prendre conscience de cette multiplicité naturelle, enfin, inévitable, que nous sommes tous. Or, cette multiplicité, je crois que les gens expatriés ou exilés en prennent davantage conscience que les gens qui restent chez eux, qui ne bougent jamais, qui ont une sorte d'illusion d'être quelque chose de façon très naturelle, ils en sont très convaincus. Quand on a vécu avec un masque, en l'occurrence pour moi, donc le masque de la française que j'adopte ou que je revais en parlant la langue française de mon mieux, je ne dirais pas maintenant que lorsque je reviens à la langue anglaise, c'est le vrai moi qui parle du tout, parce que j'ai vécu toute ma vie adulte ici, j'ai eu mes enfants ici, ils sont français, je ne peux quand même pas me dire que je suis en train de jouer un rôle à chaque instant de ma vie quotidienne.
Mais quand vous dites que vous êtes le produit d'un milieu social, de gens que vous rencontrez, la religion que vous infligez, justement si on revenait un petit peu en arrière, vous êtes né à Calgary, au Canada, dans une famille de confession catholique.
C'est assez comique, la religion dans ma famille, et ça m'a certainement prédisposé à percevoir cette nature un peu arbitraire des appartenances, puisque mon père et ma mère étaient déjà de deux sectes différentes du protestantisme.
Ils ont... Pourquoi secte ?
On ne dit pas ça. On peut être méthodiste ou presbytérien ou ceci ou cela. Je pense que quand même secte peut être neutre dans ce sens. Toujours est-il qu'ils en ont choisi un troisième en se mariant. Donc, ensuite, ma mère est partie. Mon père a épousé une catholique. Là aussi, ils ont coupé la poire en deux. Ils ont décidé de nous rebaptiser, les trois enfants. Donc, on a été baptisés deux fois. Une fois à l'intérieur d'une église protestante, une fois anglicane. Ensuite, mon père est devenu bouddhiste. Ma belle-mère catholique a cessé d'aller à l'église. Donc, j'ai perçu très rapidement le caractère bougeant et un peu convenu de tout ça. La religion n'était pas ce qu'elle est censée être, à savoir une évidence, une chose qu'on vous donne. J'ai dit infligé tout à l'heure parce que je le perçois comme ça, mais dans les temps traditionnels, ce n'était pas comme ça. On vous donne une religion pour structurer votre vie, pour que vous compreniez le monde, pour vous aider à donner un sens à la vie, la mort, les relations. C'est une structure. On ne choisissait pas au Moyen-Âge entre bouddhisme et catholicisme. C'est absurde. Dans certains pays, on était catholique, dans d'autres bouddhistes. Ici, avec cette multiplicité de religions, à la fois ça peut encore remplir cette fonction de structure pour la vie quotidienne. Et en même temps, on ne peut que se dire, voilà, c'est un peu comme acheter une chemise ou une marque de yaourt.
La religion, la religion, c'est quand même aussi le salut.
pour ceux qui y croient certainement. Mais pour moi, non, je ne crois pas en Dieu du tout. Pour autant, je ne dirais pas que rien n'est sacré pour moi. Il y a des choses qui le sont. Et je ne dirais pas non plus, comme beaucoup d'athées de gauche désespérés, que la vie n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que ce sens n'est pas donné d'avance que la vie en soit dépourvue.
À 6 ans, vos parents divorcent. Ensuite, il y a une série de migrations un petit peu dans le désordre. Vous avez New York, l'Allemagne, Paris en 73, où vous vous installez définitivement avec la ferme idée, dit-on, de devenir écrivain. Alors, on cherche le lien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps ?
À vrai dire, les migrations datent d'avant ma naissance et se poursuivent au long de ces 6 premières années de ma vie où mes parents étaient encore ensemble. C'est même l'une des grandes raisons du divorce, puisque ma mère prétend, je pense qu'elle s'est comptée, qu'ils ont déménagé 18 fois pendant leurs 9 ans de mariage. Ça fait en moyenne 6 mois par maison. Parfois à l'intérieur de la même ville, parfois c'était un grand déménagement d'un bout du pays à l'autre, voire aux États-Unis. Ils étaient au Texas pendant un moment. Et elle n'en pouvait plus. À part ces déménagements, leur mariage ressemble beaucoup à celui qu'on voit dans l'histoire 1951 du film The Hours, avec Julianne Moore qui est censée trouver son épanouissement absolu dans son intérieur, avec les meubles et les aspirateurs et les gâteaux d'anniversaire. Et ma mère ne pouvait pas supporter cette idée et se sentait complètement noyée par les tâches domestiques et maternelles. Cette époque n'encourageait pas du tout d'autres formes d'aspiration chez les femmes, surtout les mères. Et donc, elle a fait comme cette femme dans le film, elle a claqué la porte, elle est partie très loin. Donc ça, c'est effectivement, je pense que c'est pertinent d'en parler, parce que si elle n'avait pas eu ce geste, je ne serais pas devenue écrivain. Et encore moins écrivain de langue française. Puisque je pense qu'il a fallu vraiment m'éloigner de la langue maternelle pendant quelques temps pour me construire une autre identité, pour porter un masque, pour me protéger pendant quelques années, pour ne pas souffrir de la même vulnérabilité qui pouvait être la mienne dans la langue et le pays d'origine. Du reste, mon frère aîné, qui avait 8 ans au moment du divorce, et lui aussi totalement francophone. Il habite au Québec, il parle avec un autre accent que moi, mais sa vie quotidienne se déroule du matin au soir en français. Les gens rigolent quand ils nous entendent parler ensemble.
Changer de langue sur une ligne de fuite, enfin, je pense à cette idée de sortir de la langue maternelle, de s'éloigner de la mère.
C'est elle qui s'est éloignée. C'est elle qui s'est éloignée. Peut-être que c'était pour se retrouver une autre mère symbolique. Mais surtout, je dirais pas fuite. Fuite, c'est un peu négatif. Je pense que c'était dans le cas de mon frère comme dans le mien, c'était un geste de choix, de volonté, de se reconstruire, d'être maître de nos propres destins et de ne pas rester dans ce sentiment de blessure qu'on pouvait avoir, même si, évidemment, notre mère n'est pas partie pour nous blesser, mais un enfant ne peut percevoir un tel abandon que comme un rejet.
Paradoxe, puisqu'en 1973, lorsque vous vous installez à Paris, on vous retrouve dans les rangs de celles qu'on appelle des féministes, et vous parliez de votre mère comme étant quelqu'un que l'on rangerait volontiers dans ce monde-là, claquant la porte pour retrouver une certaine liberté.
Ce n'est pas un paradoxe du tout, donc, parce que même si dans mon cœur j'en ai souffert, elle m'a toujours expliqué ce geste, je veux dire, comme un geste de liberté, de choix, d'individualité. Ce n'était pas du tout à la mode à l'époque. Il n'y avait pas de mouvement féministe, pour ainsi dire. Les premiers livres, Betty Friedan et tout ça, c'est venu après. Et donc, c'est d'autant plus courageux d'une certaine façon. C'est plus facile pour moi de sauter sur un train en marche qui était le féminisme français des années 73, 14, 15. C'est vrai que ça m'a donné un coup de fouet formidable, comme tous les militantismes, mais peut-être encore plus parce qu'il n'y avait pas une idéologie particulière à laquelle il fallait adhérer. C'était des énergies nouvelles, des femmes qui se découvraient plus fortes qu'elles n'auraient cru, qui s'encourageaient les unes des autres.
C'était l'après 68.
Oui, c'était cette ambiance-là, très joyeuse. Mais c'est beaucoup plus important que ça, le mouvement des femmes au niveau mondial. Et même si des progrès très clairs ont été faits dans les pays occidentaux, on est loin, loin, loin d'avoir acquis quelque chose comme une vraie égalité, même ici. Et dans d'autres parties du monde, c'est terrible la condition des femmes. Elles portent encore énormément d'entraves.
Revenons donc à ce rendez-vous des 6 ans. Vos parents divorcent donc quand vous avez 6 ans et votre père vous amène en voyage, dira-t-on, pour simplifier, pour prendre un raccourci.
En fait, c'est notre belle-mère qui est allemande et qui m'amène avec ma petite sœur pendant que mes parents sont en train de divorcer. C'est simplement quelques mois en Allemagne. C'est un événement important parce que c'est la première fois que je découvre l'euphorie d'une autre identité grâce à une autre langue. Et donc j'avale l'allemand comme un alcoolique avale son whisky. Je veux dire, j'ai soif d'apprendre, de parler couramment, le plus vite possible. Je vais à l'école, je lis, et au bout de 4 mois, effectivement, je suis une petite allemande. J'ai beaucoup perdu depuis, mais je vois que cette visite préfigure ce qui va se passer 14 ans plus tard, quand je débarque à 20 ans à Paris, parlant plus ou moins comme ça, ne maîtrisant pas complètement par mes connaissances scolaires la langue française. Mais je dévore pas seulement la langue, mais la culture, l'histoire. Enfin, je me plonge dans ce pays comme dans un bain de jouvence. Et je dis jouvence, vous riez, parce que j'avais 20 ans, vous croyez que j'étais jeune, mais j'étais vieille à 20 ans. Et la langue française m'a rajeunie.
Quand tu dors,
l'étranger imite. Il s'applique, s'améliore, apprend à maîtriser de mieux en mieux la langue d'adoption. Il subsiste quand même presque toujours, en dépit de ses efforts acharnés, un rien, une petite trace d'accent. Un soupçon, c'est le cas de le dire. Ou alors, une mélodie, un phrasé atypique. Une erreur de genre, une imperceptible maladresse dans l'accord des verbes. Et cela suffit.
Je crois, mais que toi, ma chérie, tu ne crois pas.
Les Français guettent. Ils sont tatillons, chatouilleux, terriblement sensibles à l'endroit de leur langue. C'est comme si le masque glissait, et vous voilà dénoncé. On entreaperçoit le vrai vous que recouvrait le masque et l'on saute dessus. Non mais, vous avez dit une peignoire, un baignoire, la diapason, le guérison. J'ai bien entendu, vous vous êtes trompé. Ah, c'est que vous êtes un alien. Vous venez d'un autre pays et vous cherchez à nous le cacher, à vous travestir en français, en francophone. Mais on est malin, on vous a deviné, vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes d'origine allemande, anglaise, suédoise. Je le fais, moi aussi, je l'avoue. Dès que je détecte un accent dans la voix de quelqu'un, je le fais, tout en sachant qu'ils en sont sûrement là comme moi j'en suis lasse, qu'ils ont subi 10 000 fois ce même interrogatoire, débile, ennuyeux, blessant. Vous êtes allemand? Non? Hongrois? Chilien? Which country, comme on dit en Inde?
C'est toi qui sens et tout dit de la nuit.
La nuit.
Les mots si merveilleux, merveilleux, merveilleux.
Non seulement cela, mais dès que vous la leur fournissez, cette information se cristallisera dans leur esprit, se figera, deviendra votre trait le plus saillant. la qualité qui, entre toutes, vous définit et vous décrit. Vous serez la Russe, le Néo-Zélandais, le Sénégalais, la Cambodgienne et ainsi de suite. Un magazine respectable a récemment qualifié la cinéaste Agnieszka Holland de polonaise de service. Un autre a cru élégant de commencer une critique d'un de mes livres par la phrase « Elle est morose, notre Canadienne ». Alors que bien sûr, chez vous, votre nationalité était l'air même que vous respiriez. Autant dire qu'elle n'était rien.
Extrait de Nord perdu, Nancy Houston, édition Actes Sud.